Même Big Ben commence à trouver le temps long. Dans 9 jours, le 31 octobre soir, nos amis britanniques nous diront goodbye. Enfin, normalement. Car même pour le bouillonnant Boris Johnson, la partie est loin d'être gagnée. Depuis plus de 3 ans, le Brexit prend des allures de very bad trip.
Ce sera un référendum sur une question claire, dedans ou dehors.
Question claire, réponse claire. 51,9% des Britanniques ont choisi de claquer la porte de l'Union, ébranlant l'édifice européen.
Disons les choses clairement. Aujourd'hui, un coup a été porté à l'Europe.
Depuis, entre report, coup d'éclat et volte-face, les Européens se retrouvent prisonniers d'une série anglaise à rebondissements. Et désormais, ils veulent en finir.
Je ne fais pas de politique fiction, mais je ne pense pas que de nouveaux délais doivent être accordés. Voilà.
Quitter l'UE le 31 octobre, coûte que coûte, c'est aussi l'objectif que s'est fixé Boris Johnson. Le Premier ministre britannique se démène pour y arriver. Contraint et forcé par des députés qui ont repoussé leur vote sur l'accord avec Bruxelles, il a lancé cet après-midi des travaux parlementaires pour inscrire dans la loi britannique les termes du divorce avec l'UE. Alors les Européens peuvent-ils accorder un troisième report aux Britanniques ou doivent-ils mettre le pistolet du no deal sur la tempe des députés pour les forcer à se décider?
Un téléspectateur internaute qui imagine peut-être le scénario du pire, il voudrait savoir si des émeutes ou des violences sont possibles en cas de non-accord. Jeremy Stubbs, la tension politique est à son maximum, peut-être qu'elle va retomber ce soir, mais on se souvient notamment qu'une députée anti-Brexit avait été assassinée en 2016, donc il y a des choses qui sont possibles, des choses graves qui sont possibles. On peut imaginer effectivement qu'en cas de non-résolution de ce dossier, ça finisse mal et ça finisse dans la rue avec des émeutes, des violences,
où on se fait peur. On peut l'imaginer. La différence entre la France et le Royaume-Uni, c'est qu'en France, on a l'habitude de résoudre les questions souvent tandis que là, toute la violence est internalisée au Parlement. Ouais. On s'est dit choqué par les insultes et les brimades qu'échangent les députés. Mais heureusement, pour le moment, tout se passe au Parlement. Parce que si ça déborde dans la rue, c'est terrible. Parce que quand les Anglais se mettent en colère, c'est moche.
C'est rare, mais c'est bien. Ouais.
Oui.
Alors, en tout cas, la date fatidique approche. Hein. Tic-tac, tic-tac. Vincent, c'est votre chiffre du jour.
Ben oui, il reste, au moment où nous nous parlons, 220 heures avant la date du Brexit, qui est encore officiellement fixée au 31 octobre à minuit. Donc, ça veut dire qu'il reste 9 jours et 4 heures. Et en ce moment, ça vote au Parlement britannique. Donc, il y a eu un premier vote sur l'esprit, la possibilité de l'intégration dans la loi britannique de l'accord qui donnerait un vote positif à 329 voix pour contre 299 voix contre. Yves Bertoncini, je crois qu'il y a un deuxième vote derrière. On est un peu perdu, en tout cas moi je le confesse, je suis un peu perdu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux de ces deux votes?
Vous venez de le dire, là il y avait un vote préliminaire qui disait qu'on pouvait s'engager dans l'examen du processus de sortie sur la base d'un nouvel accord qui en tant que tel n'a pas été fondamentalement approuvé encore, mais en tout cas on dirait que le bébé se présente. Il est peut-être, on verra s'il est en siège.
Le bébé, il a déjà 3 ans et demi. Hein,
ou si on voit le bout des cheveux. Si c'était le bout des cheveux, ça veut dire que le deuxième vote, qui porte là plus sur la loi qui va permettre de mettre en œuvre l'accord de sortie des Britanniques, pourrait être lui aussi favorable. Il faut quand même relever que pour l'une des premières fois, il y a une majorité sur ce deuxième projet d'accord. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Je crois que c'est lié au fait que toutes les arrière-pensées qui étaient liées dans le Parti conservateur à la lutte pour le leadership sont maintenant derrière nous. Donc les conservateurs font bloc. Puis semble-t-il, certains travaillistes les rejoignent, à défaut des unionistes nord-irlandais. Et donc je ne crois pas qu'on tiendra la date du 31 octobre, mais on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Sous réserve de quelques délais supplémentaires, on pourrait peut-être avoir un accouchement, bien sûr, au forceps, mais que les Européens seront très heureux
de célébrer. On va être prudent, parce qu'avec
de célébrer.
Marion Van Rettergem, ce deuxième vote donc, qui vise à introduire dans la loi britannique le contenu de l'accord sur le Brexit, et Boris Johnson, lui, il veut aller très vite, hein, il veut 2-3 jours en tout cas. Pourquoi est-ce que le Premier ministre britannique est aussi pressé? Pourquoi est-ce qu'il veut aller vite?
Il est pressé parce qu'il a peur de l'examen de cette chose informe et inextricable qui est le Brexit. Donc il craint un accord, il craint un examen en profondeur depuis le début. Il a essayé de suspendre à un moment le Parlement, de l'empêcher de s'exprimer avant ce vote-là. Il engage une partie, un bras de fer extrêmement dangereux, Boris Johnson, qui est éminemment populiste, c'est-à-dire de monter le peuple contre le Parlement, comme si les parlementaires n'étaient pas des représentants du peuple. Donc il joue à cette,
discours anti-élite,
à cette rhétorique extrêmement, extrêmement dangereuse.
Mais en même temps, les parlementaires freinent.
Les parlementaires, justement, je pense que paradoxalement, il y a une certaine victoire du parlementarisme britannique, de cette vieille démocratie parlementaire, parce qu'ils ne se laissent pas faire, ils imposent leur calendrier, ils imposent des amendements. Donc c'est vrai que c'est une victoire de Boris Johnson assez éclatante, là, en tout cas sur ce premier accord, parce que c'est loin d'être fini, loin d'être fini, on en a pour des années. Mais c'est une victoire. Mais de quel Brexit parle-t-on et de quel Boris Johnson parle-t-on?
L'accord qu'il a obtenu de Bruxelles.
L'accord qu'il a obtenu de Bruxelles et qui vient d'être voté avec 30 voix de majorité. Boris Johnson, il a plusieurs visages. Est-ce que c'est celui qui avait dit qu'il n'y aurait pas de deal alors qu'il en a imposé un? Est-ce que c'est celui qui avait dit qu'il n'y aurait jamais de frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne alors qu'il en a dressé une? Est-ce que c'est celui qui avait dit qu'il ne payerait jamais la dette à l'Union européenne alors qu'il s'est engagé à la payer? Est-ce que c'est celui qui a dit qu'on se débarrassait de la technocratie bruxelloise alors qu'il invente un stratagème ultra compliqué avec deux frontières, une de jure, une de facto, la de jure entre les deux Irlandes, la de facto dans la mer d'Irlande? C'est un truc de dingue. Donc quel est le Boris Johnson qui a gagné ce soir? Lequel a menti? C'est une espèce de personnage protéiforme, multiforme, et c'est bien à l'image d'ailleurs de cette question inextricable, mal posée dès le départ, qui est que personne ne sait ce que Brexit veut dire.
Le conflit de légitimité dont a parlé Marion van Rettinghem entre le score du référendum et le Parlement auquel on assiste, est-ce que c'est la preuve de la vitalité de la démocratie britannique ou de sa dégradation selon vous?
Oh, on peut dire que, comme je disais tout à l'heure, comme le Parlement a réussi à internaliser toutes ces luttes, dans un premier temps, c'est très bien. Mais là, on est dans une situation paradoxale où l'exécutif, le gouvernement, est devenu, en quelque sorte, le prisonnier du Parlement. Et là, ça ne va pas. Parce que le Parlement n'arrive pas à se décider. Sauf que...
Et les électeurs, est-ce qu'ils sont impatients vis-à-vis de leurs élus? Est-ce qu'il y a des...
Ils sont très, très, très impatients. La grogne contre le Parlement a atteint un niveau très, très, très dangereux. Donc, nous avons besoin d'élections législatives. La seule chose qui puisse empêcher ces élections, c'est si Boris Johnson réussit son pari ce soir et dans les jours à venir, et réussir à en fait, trouver un accord.
Vous le disiez à l'instant, Jeremy Stubbs, ces électeurs britanniques commencent à être impatients, ils en ont marre, ils attendent l'issue. Il faut dire que ça fait quand même 3 ans et demi que ça dure, hein, donc depuis le référendum du printemps 2016, 3 ans et demi qui ont fini par générer, Nadia, un syndrome qui affecterait aujourd'hui nos amis britanniques.
Ouais, et ça a même un nom, ça s'appelle le Brexit fatigue, c'est-à-dire la lassitude, le ras-le-bol généralisé. Boris Johnson lui-même a employé cette expression samedi dernier pendant son discours.
Les Français, nous, on peut pas l'attraper, on n'est pas menacés.
Non, tout va bien. Tous les sondages, en tout cas, attestent de cette fatigue. Peut-être on y reviendra, mais tous les sondages attestent de cette fatigue. 6 Britanniques sur 10 estiment que le Brexit a eu un impact négatif sur leur morale. La récurrence du sujet dans les médias britanniques, mais français aussi, la récurrence en tout cas de ce sujet, ça a eu raison de la patience des sujets britanniques. D'après une autre étude, un tiers des Anglais affirment zapper les informations, les médias de leur ensemble, précisément pour plus entendre parler de ces négociations. Cette lassitude, elle est telle que la chaîne d'information en continu Sky News, vous l'avez entendu, a annoncé la semaine dernière, le lancement d'horaires de diffusion garantis sans morceaux de Brexit dedans, c'est-à-dire des programmes 100% Brexit Free qui seront diffusés de 17h à 22h du lundi au vendredi. Et cet épuisement généralisé, il affecte également l'économie, en l'occurrence dans le secteur de l'automobile qui est très dépendant des importations. La production a baissé de moitié par anticipation justement des éventuelles taxes douanières et des problèmes d'approvisionnement. Et tout ça affecte enfin les marchés financiers puisque le niveau d'optimisme à la cité est au plus bas. Ouais, il a atteint des niveaux qui avaient été relevés lors de la crise de 2008, Yves Bertoncini. Quel que soit l'issue
suite de ces négociations, de ce qui va être voté dans les prochains jours. Est-ce que la Grande-Bretagne va garder des séquelles de ces 3 ans et demi d'atermoiement, de coups de théâtre? Est-ce qu'ils vont garder des séquelles de ça?
À court terme.
Sur les différents plans économiques, psychologiques, peu importe.
Pardonnez-moi de filer à nouveau la métaphore, mais un bébé qui sort au forceps, vous voyez, il y a des traces sur le crâne, etc. Mais ça finit par s'effacer. Mais au-delà des conditions de ce Brexit, ce qu'il faut dire, c'est que tout ça reflète, non pas du tout, à mon avis, une opposition entre le peuple et le Parlement. Ça reflète des divisions qui sont dans le peuple lui-même. Le peuple a voté à 52% pour sortir. Donc il faut en effet sortir. Il y en avait quand même 48% qui voulaient rester. Mais surtout, à l'intérieur des 52%, il y a des Brexits très très différents. Et encore aujourd'hui, on bute là-dessus. Si je simplifie, le Brexit du Labour n'est pas le Brexit des conservateurs. Il y a des ultralibéraux qui veulent faire quelque chose de... Singapour, etc.
Les oppositions sont affinées, c'était vraiment perdu dès le départ.
Les Britanniques sont fatigués de leurs propres contradictions et d'une certaine manière ce Parlement il fait écho. Et ce qu'il faut dire aussi aux Britanniques, c'est que peut-être ils seront soulagés là à court terme si cet accord
de ce premier vote
passait, voilà, mais qu'on va mettre le bébé sous couveuse pendant un an et demi. C'est la période de transition, le temps qu'on négocie une relation future. Alors, sauf que la période de transition peut durer un peu plus.
On n'est pas encore là, on va rester
à la fin de la gestation.
Marion van Rettergem, si on passe de l'autre côté, c'est-à-dire côté européen, les Européens ont donc reçu deux lettres. Deux lettres contradictoires, une demandant un report et une non signée par Boris Johnson, une autre disant qu'il ne voulait pas de report signé par Boris Johnson. Quelle est l'attitude? On parlait tout à l'heure de fatigue des Britanniques. Est-ce que les 27 se fatiguent aussi de ce Brexit qui n'en finit pas?
Ils sont très fatigués. Tout le monde est exaspéré. Je pense que le plus exaspéré de manière notoire, c'est Emmanuel Macron, qui a toujours été un peu plus ferme. Franchement, il y a de quoi aussi. L'Union européenne n'a pas demandé à ce que le Royaume-Uni s'en aille. Et elle s'est pliée, je trouve, avec pas mal de conciliation, de souplesse et de bons sentiments quoi à l'égard de cette Grande-Bretagne en s'adaptant aux circonstances.
Et elle est l'allié objectif de Boris Johnson aujourd'hui, l'Europe, on peut dire ça.
Alors, on peut dire en effet, à mon avis, Macron, qui n'a pas un sens psychologique, il l'a montré avec certains collaborateurs et certains ministres, n'a pas un sens psychologique et une intuition des gens extrêmement développée, je pense s'est fait complètement rouler par Boris Johnson, qui est un grand charmeur et un grand séducteur d'ailleurs, donc qui est drôle et ultra intelligent, qui à la fois très très intelligent et très très amoral, donc c'est une espèce de bête étrange. Et à mon avis, Macron s'est fait complètement abuser quand il a dit que Boris Johnson avait une stratégie très claire et qu'on le mésestimait. Personne ne mésestime l'intelligence de Boris Johnson, mais il n'a pas de stratégie, il a une espèce d'infinité de tactiques.
Il y a un objectif, sortir.
Son objectif, c'est d'être au pouvoir et de gagner. Son objectif, c'est lui-même. Il n'a pas d'autre objectif que lui-même. Écoutez, je répète encore moi j'ai interviewé Boris Johnson pour Le Monde en 2013, il m'avait dit, texto, et c'est écrit noir sur blanc, c'est vérifiable, on n'est pas assez cinglé pour vouloir sortir de l'Union européenne, on veut rester dans l'Union européenne précisément pour pouvoir influencer et influer sur le marché. Bon, il change beaucoup d'avis et comme je l'ai dit, on passerait l'émission à faire l'inventaire de ces mensonges.
En tout cas, vous évoquiez une certaine impatience d'Emmanuel Macron, cette impatience française, eh bien, elle se manifeste aussi au gouvernement.
Oui, on a interrogé à l'Assemblée nationale Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui sur un possible report du Brexit, sa réponse était assez claire. On le regarde.
À l'heure où nous parlons, à ce stade, nous estimons qu'il n'y a pas de justification pour une nouvelle extension. Cela fait 3 ans que l'on attend cette décision. Il importe que cette décision soit aujourd'hui annoncée, parce que sinon il n'y aura pas d'application, sauf l'accord, le no deal, qui n'est pas la solution que nous préférons. La question principale, il faut la renvoyer aux Britanniques, et qu'ils nous disent aujourd'hui, le plus vite possible, si c'est oui ou si c'est non.
Il a l'air un tout petit peu perdu aussi, notre ministre Yves Bertoncini. Il y a un paradoxe, c'est que la France se montre intraitable, alors que l'Allemagne a l'air plus souple et a l'air peut-être prête à accorder un dernier délai technique.
Oui, ou même un délai politique. C'est intéressant d'entendre le ministre des Affaires étrangères. Il faut sous-titrer Quai d'Orsay, parce que quand on dit « à l'heure où nous parlons, virgule, à ce stade », ça veut tout à fait dire que c'est une position de principe qui sera révisée si besoin. Mais à court terme, ça met la pression sur les Britanniques, et notamment les députés britanniques. C'est une façon de rendre service d'une certaine manière à Boris Johnson en disant « vous votez ça parce que sinon... » on...